Bien. Alors, la semaine dernière, on était en Italie. Cette semaine, on est en Angleterre. Je préviens, j'ai un accent catastrophique, donc vous êtes priés de ne pas rigoler lorsque je parle des artistes que nous allons voir dès maintenant. Alors, les visions dangereuses. Je voulais expliciter un petit peu le titre de mon cours. Il y a un jeu de mots entre liaison dangereuse, vision dangereuse, à travers le parcours de deux artistes, donc dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, Henry Fuseli et William Blake. Liaison parce que ces peintres se sont connus, se sont appréciés, et vision parce que ces artistes ont livré des visions hallucinées, hallucinantes, qui ont profondément marqué les contemporains, qui ont également profondément marqué les générations suivantes, jusqu'au mouvement du XXe siècle, comme le surréalisme. On est dans le fantasme avec Fuseli et Blake, on est dans le songe éveillé, où le danger n'est jamais bien loin. Donc l'étrange, le bizarre vont être convoqués continuellement. Avant d'entrer un peu plus précisément dans le sujet, je voulais faire un bref rappel historique. Il faut évoquer l'Angleterre. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, l'Angleterre, elle n'est pas très puissante. Elle a des places relativement modestes dans le concert européen. Et la fin du XVIIe siècle va constituer un tournant. Un tournant culturel. L'Angleterre s'impose sur le plan scientifique, sur le plan philosophique, avec des intellectuels comme Isaac Newton, comme John Locke. L'Angleterre devient le foyer de référence pour l'Europe des Lumières. Et c'est également un tournant stratégique, puisque l'Angleterre va s'affirmer comme une puissance militaire et diplomatique. Le régime politique inspire beaucoup les philosophes des Lumières, notamment en France. C'est un régime politique qui repose sur l'équilibre des pouvoirs, et c'est une vraie référence. Donc l'Angleterre, le XVIIIe siècle anglais, est un XVIIIe siècle plutôt optimiste, plutôt confiant. L'Angleterre s'affirme comme une puissance militaire, diplomatique, et c'est également le début de la révolution industrielle, donc d'un point de vue économique, c'est une puissance grandissante. Ça va être également le début de la course à l'hégémonie mondiale. Vous savez, petit rappel, au XIXe siècle, on parle d'empire britannique, hein. L'Angleterre va conquérir un certain nombre de territoires en Afrique, en Asie, et ce début de course à l'hégémonie mondiale, on peut le placer dès le XVIIIe siècle. D'un point de vue culturel, on est dans les prémices du romantisme, un romantisme qu'on a pu qualifier de noir. Alors là, je fais une allusion directe à l'exposition qu'il y a eu l'année dernière au musée d'Orsay, qui se proposait d'envisager le romantisme noir. L'expression est assez ancienne, elle date des années 1930, elle est l'invention d'un historien de l'art italien qui s'appelait Mario Praz, et Mario Praz en fait a distingué dans le romantisme tout un versant noir avec un goût pour l'étrange, pour le bizarre, pour l'effrayant. Et les artistes que l'on va voir aujourd'hui s'inscrivent totalement dans ce goût pour le mystère et pour l'effroi. Ce versant noir, on va le retrouver en littérature avec toute la veine du roman noir, du petit roman gothique. En Angleterre, le genre est inauguré par un écrivain qui s'appelle Horace Walpole, qui est l'auteur du Château d'Otrante. Le Château d'Otrante, il est publié dans les années 1764 plus précisément. C'est un récit qui est ancré au Moyen-Âge et qui multiplie les références fantastiques. Je prends un exemple, dans le roman, le prince d'Otrante va mourir écrabouillé par un gigantesque casque qui tombe du ciel. Voilà, donc on est dans le mystère, on est un peu dans le fantastique avant l'heure. Et il y a un vrai goût pour le passé, pour le surnaturel et pour les choses susceptibles d'inquiéter, d'effrayer. On pourrait également citer Matthew Gregory Lewis avec Le Moine. Le Moine, c'est l'itinéraire catastrophique d'un homme qui, au départ, est totalement dévoué à la vertu, et puis, inexorablement, qui va céder à tous les vices et à toutes les tentations. Et puis, on pourrait évoquer également Anne Radcliffe, qui publie au XVIIIe siècle un livre qui s'appelle « Les mystères du Dolph ». C'est un livre qui suit les pérégrinations d'une jeune fille dans un château mystérieux. Et voilà, il y a toute une vogue pour les châteaux sombres, les personnages un peu étranges, les paysages angoissants. Et c'est toute une vogue qui va être croquée avec ironie dans un livre absolument génial qui s'appelle Northanger Abbey de Jane Austen. Alors Jane Austen, elle est... Après j'arrête dans la parenthèse littéraire, on est là pour l'histoire de l'art. Mais Jane Austen, c'est un écrivain qui manie beaucoup l'ironie et qui a croqué avec verve tous les travers de ses contemporains. Et notamment dans ce livre, donc, Northanger Abbey, elle croque toute cette frénésie, toute cette folie, cet amour pour le gothique. Et elle multiplie les références au mystère du Dolph. Donc il y a toute une vogue pour le passé. On va redécouvrir des auteurs anciens. On redécouvre notamment William Shakespeare. Alors là, c'est pas anodin, en fait, Fuseli et Blake vont abondamment illustrer les pièces de Shakespeare. À cette époque, il y a même un graveur qui s'appelle John Boydell qui va avoir un projet faramineux. Il va vouloir illustrer les pièces de Shakespeare. Il va même faire construire un bâtiment à cet effet, qu'on a appelé la Boydell Gallery. Et il va solliciter tous ses amis artistes pour s'inspirer des œuvres de Shakespeare et pour peindre des panneaux, parfois de très très grandes dimensions. Il faut voir également dans cette esthétique pré-romantique une résistance à l'esthétique inspirée par l'Antiquité. On redécouvre l'Antiquité au XVIIIe siècle, hein, il y a toutes les fouilles de Pompéi, d'Herculanum, l'Antiquité fournit un répertoire de formes extraordinaire. Et justement, le pré-romantisme va vouloir insuffler autre chose. Alors on pourrait schématiser ainsi, je caricature un peu, à l'aspect froid, à l'aspect impavide de cette esthétique héritée de l'Antiquité, bien s'opposerait toute la passion, tout l'onirisme du pré-romantisme. Donc on pourrait définir le pré-romantisme comme une sensibilité nouvelle, un retour avoué à une certaine subjectivité. Il faut sonder les tréfonds du moi, exploiter toute la complexité de l'homme dans sa révolte, dans son désespoir, dans son insatisfaction. Plus rien n'est camouflé avec le pré-romantisme, tout est mis à jour. On est aussi dans l'esthétique du sublime. Ça, c'est un concept qui est théorisé avec Edmund Burke au XVIIIe siècle. Et le sublime, en quelques mots, on pourrait le résumer ainsi. Là où le beau flatte nos sens, là où le beau satisfait notre raison, eh bien le sublime va bouleverser tout ça. Le sublime va dépasser tout ça en provoquant un effroi, en provoquant un plaisir, en provoquant des émotions très très fortes. Fuseli et Blake donc vont s'inscrire dans ce formidable contexte culturel et vont avoir un goût prononcé pour l'étrange, pour le mystère. Et avant eux, il y a eu en Angleterre des artistes qui ont eu une sensibilité pour l'étrange. Alors on pourrait évoquer notamment James Barry qui était un artiste un peu mystique, un nourri de vision. J'évoquais tout à l'heure la redécouverte de Shakespeare. Là on a un tableau qui illustre ce renouveau pour Shakespeare, ce renouveau du goût. C'est le roi Lear pleurant sur le corps de Cordelia. Le roi Lear, hein, c'est l'histoire de ce roi qui partage son royaume entre ses trois filles, qui leur demande de lui manifester leur amour. Alors deux de ses filles manifestent leur amour, et puis l'une d'elles, Cordelia, refuse de se prêter à ça. Et pourtant, c'est cette même Cordelia qui viendra à la rescousse de son père pour l'aider à récupérer ses territoires spoliés. Et là, bon, on a une scène tragique, puisque c'est la mort de Cordelia. Et on a le visage du roi Lear, un visage assez important, assez massif, avec une tête tout échevelée. Il se met les mains sur le crâne pour manifester son désespoir, sa tristesse, puisqu'il porte donc le corps sans vie, le corps inerte de sa fille. Et on a une composition au niveau des personnages qui montre bien ce désespoir, puisque le corps de Cordelia est vraiment encadré, cantonné par tous ces personnages, par les soldats à gauche et par le roi Lear à droite. J'évoquais tout à l'heure le goût pour les paysages mystérieux. Vous aurez repéré en arrière-plan les ruines de Stonehenge. Donc là aussi, c'est une allusion aux vestiges du passé et aux vestiges mystérieux, puisque Stonehenge, à cette époque, était un lieu confit de fantasmes en tout genre. Autre artiste qu'on pourrait évoquer, John Hamilton Mortimer, paysage rocheux avec des bandits. La plupart des tableaux que je vais présenter ce soir sont conservés à Londres, à la Tate Britain. Donc c'est le cas pour ce tableau-là. John Hamilton Mortimer, il a été formé auprès de plusieurs maîtres, notamment l'artiste avec un grand A de l'époque, c'est Joshua Reynolds. J'en parlerai tout à l'heure parce que Blake n'était pas le genre en peinture. Mortimer a un parcours très, très classique, hein. Il a été à la tête notamment de la Société des artistes de Grande-Bretagne. Et là, ici, il peint donc un paysage très ténébreux, très obscur, le ciel notamment est nuageux, il y a des tons noirs, des tons bleus, on est vraiment dans le mystère, on a juste cette petite lumière qui vient éclairer le conciliabule de ces trois bandits. Donc on est vraiment dans une scène qui évoque le mystère et qui va susciter tout un tas de questions chez le spectateur. J'en arrive à Fussy. Alors je l'ai appelé tout à l'heure Henry Fussy. En fait, il a passé la quasi-totalité de sa carrière en Angleterre. Donc souvent il est dénommé Henry Fussy de son vrai nom, Johann Heinrich Fussy, puisqu'il est suisse. Fussy est né à Zurich en 1741 et il va baigner dans un milieu artistique et intellectuel très stimulant. Son père est artiste, son père est également un collectionneur, un théoricien, donc Fussy a une enfance bénie, il fréquente tout un tas d'artistes, tout un tas d'intellectuels, et il va quitter assez rapidement la Suisse. Il y a une vingtaine d'années quand il arrive en Angleterre, il arrive à Londres, et il se lie d'amitié avec Joshua Reynolds. Donc Reynolds, c'est un portraitiste réputé, c'est vraiment un artiste, c'est un anti, c'est à la fois un artiste réputé, admiré, et puis c'est aussi une institution, puisqu'il est à la tête de la Royal Academy of Arts, donc c'est vraiment la figure institutionnelle par excellence. Et les deux hommes se lient d'amitié, et sur ses conseils, Fussy va partir en Italie, il va aller à Rome, mais il va voyager dans tout le pays. Et il va notamment être très impressionné par les œuvres du maniérisme. Le maniérisme, je l'évoquais la semaine dernière, c'est ce courant qui apparaît dans l'Italie au XVIe siècle et qui a vraiment un goût prononcé pour les coloris audacieux et des formes très excessives. Les personnages du maniérisme, ils sont toujours très très musclés avec des membres démesurément longs. Et donc Fussy va ingérer cette influence italienne, il va y injecter sa patte. L'œuvre de Fussy, on pourrait la caractériser par des couleurs froides qui sont souvent diluées dans une atmosphère un peu ténébreuse. Et les corps de Fussy sont très caractéristiques, ce sont des corps un peu élastiques. Les hommes, les femmes ont des membres immenses, mouvants, on les croirait parfois désarticulés à la façon de Pantin. Et il y a aussi des traits très véhéments. On va le voir. Alors la première œuvre que je voulais évoquer, c'est la plus célèbre de Fussy en fait, hein. C'est Le Cauchemar. Il y a plusieurs versions de cette œuvre, il y en a bien une demi-douzaine. Là je vous montre la version qui est conservée à Détroit. Une vision inquiétante, puisqu'on a cette obscurité omniprésente, et puis ce corps drapé de blanc, ce corps inerte, hein, cette femme qui gît totalement abandonnée, hein, la chevelure abandonnée, les bras ballants. On ne sait pas trop comment réagir par rapport à cette œuvre. Est-ce qu'elle est ensommeillée, ou est-ce qu'au contraire, on est face ici à un cadavre ? Il y a des références, des allusions qui viennent nous inquiéter. Bah d'abord, il y a la présence de ce diablotin qui est accroupi sur son ventre, figure inquiétante, et puis il y a cette vision d'une jument, vision totalement photomatique, hein, puisqu'elle a des yeux exorbités, elle est spectrale cette jument, elle est très inquiétante. Le cauchemar, nightmare en anglais, le mot mère en anglais, ça signifie jument, et en vieil anglais, ça signifie démon, incube. Et dans tout le folklore anglais, au-delà dans tout le folklore européen, le folklore médiéval, l'incube, c'est celui qui vient agresser les jeunes femmes dans leur sommeil et vient les tenter, parce que généralement ce sont des démons avec une grande ardeur sexuelle. Songez aussi à Cartruvien, songez à Merlin. Merlin, il est né des amours, entre guillemets, d'une femme et d'un démon qui était venu la visiter la nuit. Donc c'est une œuvre inquiétante, c'est une œuvre également à l'érotisme latent, et il n'est pas inintéressant de connaître un peu les derrières de cette œuvre. En fait, Fussy, à cette époque, était amoureux fou d'une femme qui s'appelait Anne Landolt. La passion n'était pas réciproque, et il se consumait véritablement d'amour pour cette femme, et en fait, à l'arrière de cette œuvre-là, il y a le portrait d'Anne Landolt. Et il y a des experts, il y a des historiens d'art qui se sont demandé si finalement ces deux femmes n'étaient pas les mêmes. Et dans ce cas-là, est-ce que dans la représentation de cette femme endormie, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une allusion à Anne Landolt? Et dans ce cas-là, la jument et le démon, c'est une allusion à ceci. Une allusion à son érotisme, à son ardeur sexuelle dans la figure du démon, et une allusion à sa virilité, bien sûr, dans la figure du cheval. Autre œuvre de Fuscy, Les Trois Sorcières. Là encore, une allusion à Shakespeare, puisque ces trois sorcières, on les trouve dans la pièce Macbeth. L'histoire de Macbeth, c'est l'histoire d'un homme qui est duc, qui est sujet du roi d'Écosse, Duncan, et qui rencontre trois sorcières. Et au cours de cette rencontre, les trois sorcières font trois prédictions. Première prédiction, tuer le duc de Glenis, ce qu'il est déjà. Tuer le duc de Cawdor. Et enfin, troisième prédiction, et pas des moindres, tuer le roi d'Écosse. Et peu après, en fait, cette rencontre un peu étonnante, Macbeth est fait duc de Cawdor. Et alors là, ça va éveiller chez son épouse une ambition folle, une ambition démesurée. Et Lady Macbeth va forcer son mari à tuer le roi d'Écosse. Donc c'est une lente descente aux enfers. On en reparlera tout à l'heure. Et donc là, on a cette vision. Donc on est dans l'effroi parce que l'obscurité est omniprésente. Et puis on a ces trois figures qui se détachent. Il y a un clair-obscur qui vient exacerber leur laideur. Hein. Elles ont des visages grimaçants. Et elles ont surtout toute une gestuelle un peu inquiétante. Elles lèvent toutes les trois de façon très rythmée leurs doigts. Et de l'autre main, elles mettent le doigt à la bouche. Elles se murent la bouche. Attention, le secret est sans doute synonyme de tragédie, synonyme de drame. Donc face à ça, on est dans l'inquiétude, on est désarçonné, décontenancé. Fuscy va être très influencé par la littérature. Alors, la littérature européenne, hein, il goûte aussi bien à la littérature britannique qu'à la littérature italienne, qu'à la littérature scandinave aussi. On en verra un exemple tout à l'heure. Ici, on a un tableau qui s'appelle Théodore rencontrant dans la forêt le spectre de son ancêtre, Guido Cavalcanti. C'est un tableau immense, hein, qui fait plus de 3 mètres de long. C'est un tableau qui lui a été inspiré par un poème de John Dryden, qui est un auteur britannique du XVIIe siècle. Le poème est intitulé Théodore et Honoria, et Dryden lui-même s'était inspiré du célèbre Décaméron de Boccace. Le Décaméron, c'est un recueil de récits, de nouvelles, pourrait-on dire, de Boccace, qui était un auteur italien de la fin du Moyen-Âge, du XIVe siècle. Donc là, on a les corps immenses, des corps musculeux, hein, le corps d'Honoria notamment est assez impressionnant. Et on a ce jeu de jambes entre Théodore et Honoria qui ouvre la scène, qui dessine un espace triangulaire dans lequel fait irruption le spectre de Guido Cavalcanti. Tout est effrayant dans cette vision, le corps puissant, les naseaux béants, les yeux exorbités du cheval, qui surgit de façon très impressionnante, le spectre lui-même, hein, qui lance un regard hargneux et menaçant vers Théodore, et puis il y a ces bêtes monstrueuses qui viennent assaillir le corps d'Honoria. Donc là on est vraiment dans l'effroi, hein. À la fois un effroi suggéré par la morsure, par l'attaque des bêtes, et puis un effroi suggéré par les mouvements de panique d'Honoria qui cherche à fuir à tout prix et qui ne parvient pas, elle est prisonnière. Et cette sensation de peur, elle est renforcée par le ciel sombre traversé de nuées rougeoyantes. Fuscy adore les ciels sombres, on va le voir par la suite, c'est une astuce picturale pour manifester l'angoisse et l'inquiétude. Autre sujet tiré de la littérature, Perceval délivrant Blanchefleur. Donc, scène inspirée du cycle arthurien. Perceval, c'est ce jeune homme fruste et ignorant qui est élevé à l'écart du monde, dans une forêt, et qui plus tard va être initié à la chevalerie et va être intégré à la cour du roi Arthur. Et l'histoire de Perceval, c'est l'histoire d'une formidable quête initiatique dans laquelle il découvre et dans laquelle il s'approprie ses origines. Donc là, on a, là encore, je vous parlais tout à l'heure des corps un peu élastiques avec des membres démesurés. Bon, bah là, on est totalement là-dedans. On a des gestes excessifs, notamment ce Perceval qui est immense, qui enlace d'une main Blanchefleur, qui saisit son épée de l'autre. Voilà, des corps très très grands, des corps qui semblent s'étirer dans l'espace. et toujours cette atmosphère très sombre, très lugubre, qui vient accentuer le côté magique et le côté mystérieux. Sujet inspiré par la mythologie grecque, Œdipe maudissant son fils Polynice. Alors, on retrouve ce goût hein, pour les corps musculeux. Le geste d'Œdipe, qui est un vieillard et qui est quand même à une allure très impressionnante, les gestes d'Œdipe sont très pathétiques. Œdipe, ici, il est livide, il tend un bras immense qui vient se superposer sur le bras de Polynice, qui a une chair beaucoup plus mordorée, et de son autre bras, eh bien, il vient pointer, il vient maudire Polynice. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très fatidique. On est dans le châtiment, un châtiment implacable, un châtiment inéluctable, et le clair-obscur vient renforcer ce côté fatidique. Et puis, on a la figure de ces deux femmes qui sont éplorées, qui cherchent à nuancer Polynice, et puis qui n'y arrivent pas, puisque Polynice est englué dans sa fureur. Et voilà, on a vraiment une impression de malaise. Tout à l'heure, j'évoquais la grande découverte du maniérisme en Italie. Fuschi avait notamment été très impressionné par la voûte de la Sixtine, par les peintures de Michel-Ange. Michel-Ange dans la Sixtine par des corps musculeux. Même les femmes sont des hommes, hein, elles sont extrêmement viriles. Eh bien, regardez la figure de Polynice. Regardez son torse, regardez ses cuisses, on est vraiment dans une armature toute de muscles. Et là, c'est vraiment un clin d'œil total à la leçon du maniérisme italien. J'évoquais tout à l'heure les références littéraires, j'évoquais notamment la Scandinavie. Ici, on a un tableau qui s'intitule « Thor combattant le serpent Midgard ». Et c'est inspiré du folklore scandinave, c'est un tableau très important dans la carrière de Fuschi, puisque c'était son morceau de réception à la Royal Academy of Arts. Les morceaux de réception, c'était les œuvres que les artistes présentaient pour être acceptés un peu par leur père. C'est une scène inspirée du recueil de poèmes islandais composé au Moyen-Âge, qu'on appelle communément l'Edda. Et c'est un recueil qui met en scène en fait tous les dieux de la mythologie scandinave et les héros. Et donc là, on a Thor, juché sur une barque, qui combat le serpent, un serpent qui vient surgir des flots, et les deux corps se rencontrent, dessinent une ligne ascendante, donc ce choix suggère la violence du combat, et le fait que ce combat soit vu en contre-plongée évoque d'autant plus la force extraordinaire de Thor. Et à ses côtés, on ne le voit pas tout de suite, mais sur la barque, il y a un géant, le géant Eimer, qui ne fait pas de figure ici, puisqu'il est tout recroquevillé, on n'a pas du tout l'impression qu'il est gigantesque justement. Et là encore, hein, c'est une astuce pour montrer le côté viril, le côté tout-puissant de Thor. Là encore, hein, la musculature est tout à fait épatante. Le noir prédomine, la lumière éclabousse le corps de Thor, c'est encore une astuce pour exalter sa puissance et sa virilité. Alors Fuschi va être très, très inspiré par les pièces de Shakespeare. Là, on en a... On a une œuvre qui est assez connue, c'est Titania et Bottom. C'est une scène issue du Songe d'une nuit d'été. Le Songe d'une nuit d'été, c'est une pièce de théâtre dans laquelle le monde des hommes et des femmes se confrontent autour de plusieurs intrigues. Au départ, la scène, elle se passe à Athènes avec Thésée qui s'apprête à célébrer ses noces avec Hippolyte. Et dans la forêt avoisinante, il y a le roi des fées, Obéron, qui se dispute avec Titania, la reine des fées. Il y a deux autres couples qui viennent se mêler à l'intrigue, alors des couples avec des amours contrariés évidemment, Hermia qui est amoureuse de Lysandre, mais qui est promise à Démétrius, qui lui est amoureux d'Héléna. Bref, des histoires d'amour très complexes, très compliquées, et les sortilèges d'Obéron, aidés par le lutin Puck, vont semer la confusion au cours d'une nuit, à la fin de laquelle on ne saura jamais vraiment si c'était le rêve ou la réalité. Donc là on a Titania, la reine des fées, et elle s'appuie sur un personnage un peu étonnant avec une tête d'âne. Bon, ça c'était un des sortilèges d'Obéron, puisqu'il avait affublé un vulgaire bonhomme qui s'appelle Nick Bottom dans l'histoire, et il l'avait affublé d'une tête d'âne, et Titania va en tomber éperdument amoureuse. Donc là on a une composition qu'on pourrait inscrire dans un triangle en fait, hein, une composition qui monte comme une nuée, toutes ces fées autour de Titania qui évoquent la joie, qui évoquent la légèreté, toujours ce clair-obscur très très doux qui vient caresser les épidermes. On est vraiment dans une image de beauté, d'onirisme. Alors on retrouve cette ronde des corps, ces coloris très doux, hein, tous ces tons de blanc, ça donne à la scène une allure un peu spectrale. Et on est dans le rêve là, on est dans un tableau qui s'intitule « Le rêve du berger ». C'est une scène qui a été inspirée par un auteur britannique qui s'appelle John Milton. Je l'évoquerai abondamment quand on parlera de William Blake. John Milton, c'était un écrivain britannique qui a vécu au XVIIe siècle et qui a écrit une gigantesque somme qui s'appelle « Le paradis perdu ». « Le paradis perdu », c'est une formidable épopée chrétienne en plusieurs champs et c'était une œuvre culte à l'époque. C'est une œuvre pour la petite histoire qui a été traduite par Chateaubriand. Et Chateaubriand, par exemple, l'a considéré comme vraiment un sommet de la littérature anglaise. Donc là, on a la ronde irréelle et stylisée de ces personnages aux bras immenses, aux bras souples. Fuseli met en scène donc une chorégraphie toute de légèreté, une chorégraphie très vaporeuse, qui contraste avec le sommeil lourd. On a ce corps un peu désarticulé du berger qui est profondément endormi. Il a une allure massive, il a une allure un peu gauche, et ça contraste vraiment avec ces corps éthérés qui planent au-dessus de lui. Et là encore, hein, le clair-obscur, presque spectral, vient renforcer le mystère de la scène. Alors tout à l'heure, je parlais des trois sorcières, figure importante dans l'œuvre de Shakespeare, Macbeth. Ben là, on va voir une des œuvres les plus connues, Lady Macbeth, Somnambule. C'est un tableau qui est très célèbre, c'est un tableau qui est conservé au musée du Louvre, immense, hein, plus de 2 mètres de haut. Et l'apparition d'Lady Macbeth en est d'autant plus inquiétante. On a une Lady Macbeth extrêmement angoissante. Le tableau décrit le moment où elle marche dans son sommeil, hantée par le remords de ses crimes, et le moment où elle vacille, où elle va sombrer dans la folie. Dans la pénombre, donc, elle surgit complètement échevelée, spectrale, hein, là encore, le regard halluciné, tout indique la frénésie, tout indique la hâte, les cheveux qui volent au vent, le drapé de la robe aussi qui vole au vent, les bras qui sont tendus, et puis cette flamme qui vacille, un, deux, trois, sur la bouche. Et au départ, on est focalisé sur cette figure, elle est très impressionnante, très effrayante, et ce n'est que dans un second temps qu'on observe le second plan, on voit deux personnages qui sont aussi saisis de stupeur devant cette arrivée bruyante et étonnante. Donc on est vraiment dans l'étrangeté. Et le clair-obscur, là, va figer l'effroi de Lady Macbeth, elle est vraiment baignée d'une lumière éclatante. C'est un tableau qui est vraiment saisissant, parce que c'est un tableau qui est, quand on le voit, très très sombre. L'arrière-plan est... Il y a vraiment une utilisation des noirs qui nous enveloppe dans une espèce de mystère, qui nous nimbe dans une espèce d'angoisse. On est vraiment très mal à l'aise et du coup cette figure lumineuse, luminescente de Lady Macbeth est vraiment, vraiment très déconcertante. Ça prend aux tripes, littéralement. J'évoquais tout à l'heure Milton, Fuseli l'a dépeint dans un tableau un peu angoissant. Je voudrais bien que vous regardiez notamment le regard de Milton, un regard presque animal avec des yeux énormes, béants, exorbités. On dirait qu'il est en train de déclamer une prophétie. Et on a sa fille qui, au contraire, est baignée de lumière dans des tons beaucoup plus, beaucoup plus humains. Il y a du blanc, il y a du rose, on est dans la vie, alors que Milton est plutôt gris, les pieds à la tête, hein. Seules ses mains sont un peu blanches, mais son visage est vraiment cadavérique. Et ça plante le décor. Milton était vraiment un auteur que beaucoup ont considéré comme un prophète, hein, Blake notamment. Et là, on a une allure très très inquiétante. On est du coup dans la vénération, dans la révérence face à ce personnage immense qui est en train de dicter son savoir à sa fille. Œuvre très troublante. Alors là, j'ai écrit le titre en anglais. Donc je vais vous le traduire, je ne vais pas vous le lire parce que là ça sera ridicule. La divinité de la nuit visitant les sorcières de Laponie, c'est un tableau qui est conservé à New York. et qui illustre un passage justement du paradis perdu de Milton, qui met en scène la déesse Hécate surgissant du ciel. Et la déesse Hécate, on la repère assez rapidement, puisque c'est cette nuée lumineuse, cette nuée incandescente qui vient débarquer dans l'espace du tableau. Et au départ, l'œil est attiré par la figure monstrueuse et gigantesque de cette sorcière, avec les seins énormes, menaçants, couverts d'une peau de bête, enserrant dans ses mains un enfant. On est vraiment dans l'animalité, la sorcière elle est vraiment prédatrice ici, et tout est menace. Il y a cette apparition lumineuse des quatre, il y a cette animalité de la sorcière, on a au tout premier plan des mains gigantesques qui viennent agripper une échelle, qui viennent brandir un poignard, et puis on a à l'arrière-plan, de façon très fantomatique, tout un tas de créatures qui accourent. Donc la menace, elle est palpable et elle s'avance inéluctable, elle se resserre auprès du spectateur. Et si vous observez bien, donc on a une composition qui est très très serrée, on a une composition qui est triangulaire, au sommet du triangle on a justement l'apparition de la déesse Hécate. Donc on est vraiment catapulté et emprisonné dans cette œuvre. Autre forme d'emprisonnement, la folie de Kate. Alors ça, c'est un tableau très entêtant, un tableau très oppressant. Ce n'est pas un tableau très grand, c'est un tableau de format moyen, mais c'est une vraie fenêtre sur la folie. Et ce format moyen, justement, nous projette dans une ambiance malsaine et dans une ambiance inquiétante. Tout est mouvement ici, le ciel qui est balayé par le vent, qui est traversé de nuées noires et bleues, la tête échevée de Kate, qui est en train d'observer le spectateur, qui est elle est totalement saisie, elle a un regard pétrifié. On a cette robe qui tournoie également. Et finalement, dans cette œuvre-là, seules les mains, qui esquissent un geste très lent, très délicat, comme suspendu, viennent rompre le mouvement en injectant une pause et en injectant une horizontalité. Et en même temps, ces mains, elles pointent une direction qui nous déconcerte. Qu'est-ce qui effraie tellement Kate dans ce tableau? On se le demande. On est du coup très décontenancé face au non-sens de cette vision, qui est en fait la vision de Kate. Donc c'est une vision qui nage dans l'absurdité et qui nage dans l'insensé. On est en 1806-1807, Fuseli meurt quelques années après, en 1825, auréolé de gloire. Hein. Fuseli a été vraiment un artiste qui de son temps était très apprécié. Et j'évoque aujourd'hui Blake également. Fuseli et Blake se sont connus, se sont appréciés. Il y a d'ailleurs des emprunts entre les deux artistes. Il y a un même goût pour les sons, pour les chimères en tout genre. Mais on va le voir, Blake a un côté très prophétique, très mystique, que Fuseli condamne. Pour Fuseli, l'artiste n'est pas du tout une entité à part, dépositaire d'une inspiration supérieure, pas du tout. Fuseli, c'est intéressant parce que c'était une personnalité totalement paradoxale. On a vu, hein, il y a ce goût pour l'étrange, ce goût pour le mystérieux, et paradoxalement, Fuseli, c'était l'archétype de la personnalité très consensuelle. Il a beaucoup enseigné, et dans son enseignement, il était très néoclassique, en fait. Il était très... il manifestait son goût pour l'antiquité, son goût pour une certaine rigueur, pour une certaine froideur, et ses œuvres sont en totale contradiction avec l'enseignement qu'il faisait. Voilà, Fuseli par exemple, il critiquait beaucoup les extravagances des pré-romantiques. Or, dans ses œuvres, il y a vraiment un côté noir, un côté gothique avant l'heure, qui est très accentué. Elles sont très fantasmatiques, ces œuvres. Fuseli et Blake, donc, se sont connus, se sont appréciés, et c'est une formidable transition pour aborder donc William Blake. William Blake, qu'on a souvent dépeint comme quelqu'un d'atypique, voire marginal. Et je voulais ouvrir cette présentation de Blake par un extrait de Georges Bataille. C'est un extrait qui introduit bien mon propos et qui introduit bien tous les a priori que l'on pourrait avoir sur l'œuvre de Blake, une œuvre très ardente. Hein. Blake, il se purge, il donne une vision très, très, très passionnée, très charnelle du monde, une vision mythique du monde. Donc je cite Georges Bataille, c'est un extrait que l'on trouve dans La littérature et le mal. C'est un fou, disait-on. On répéta même après sa mort. Ses œuvres ont un caractère de déséquilibre. Elles étonnent par leur indifférence aux règles communes. Quelque chose d'exorbité, de sourd à la réprobation d'autrui, élève au sublime ses poèmes et ses figures de couleurs violentes. Blake, qui fut un visionnaire, néanmoins ne donna jamais de valeur réelle à ses visions. Il n'était pas fou, il les tint simplement pour humaines. Il vit en elles les créations de l'esprit humain. Voilà en germe tout ce que l'on pourrait avoir comme impression, comme a priori au premier regard. Une œuvre inquiétante, on va le voir, une œuvre qui multiplie les références au bien et au mal, une œuvre très spirituelle, voire mystique, avec des figures immenses, des figures entêtantes, prisonnières de la matière. Parce que la grande douleur, la grande fatalité de l'homme pour Blake, c'est qu'il est prisonnier de la matière. Blake a été reconnu sur le tard, c'est vraiment un artiste très complexe. Il y a eu de nombreux exégètes, alors évidemment de nombreux exégètes en Angleterre, mais également en France. Et je me suis penchée donc sur toute la littérature qui concernait Blake. Et la première impression que j'avais, je vous le dis, face à Blake, c'est un artiste que j'ai toujours beaucoup apprécié, mais c'est vrai que c'est un artiste qui m'a toujours beaucoup désarçonnée. Et je n'étais pas certaine de pouvoir bien interpréter ses œuvres. Donc c'est vrai que je me suis ruée sur toute cette bibliographie. Et en fait, parmi les exégètes, il y en a qui sont tout aussi nébuleux que les œuvres qu'ils prétendent éclaircir. Donc, de façon très humble, de façon très modeste, je vais essayer de vous clarifier un peu son message, mais c'est vraiment un artiste complexe et puis compliqué aussi, on peut le dire. Donc l'œuvre de Blake, je le disais tout à l'heure, elle est décrite mysticisme. Il emprunte son interprétation des mystères chrétiens à un homme de science et un philosophe mort en Angleterre dans le dernier tiers du XVIIIe siècle qui s'appelait Swedenborg. Et Swedenborg, donc c'était un illuminé, hein, il avait des visions et il pensait que depuis l'origine du monde, il y avait une lente déchéance, une lente descente aux enfers. Et cette descente aux enfers, cette mécanique infernale, elle serait un jour, une bonne fois pour toutes, abolie par le jugement dernier. Donc une vision très noire et très pessimiste du monde. Et Blake, il adhère beaucoup à cette idée de déchéance. D'autant plus que les parents de Blake étaient des gens qui appartenaient à une secte dissidente. Donc toutes les sectes dissidentes à l'époque étaient vraiment très gourmandes de visions et de prophéties en tout genre. Donc il va baigner dans un univers où l'imagination est partie prenante. Et c'est d'autant plus remarquable, c'est d'autant plus atypique que c'est le XVIIIe siècle, donc c'est le siècle rationaliste par excellence. Donc il est vraiment en totale contradiction avec son époque. Je l'ai évoqué tout à l'heure quand je citais Georges Bataille. Blake est un artiste, c'est un peintre, un graveur, un aquarelliste, mais c'est également un poète. Donc au cours de cette dernière partie de cours, je ne résisterai pas au plaisir de lire certains de ses poèmes. Blake étudie adolescent dans l'atelier du graveur James Bazir. Les parents de Blake avaient de petits revenus, donc il était impossible pour eux de lui financer un parcours aux petits oignons. Donc on pouvait, ils n'ont pas pu le placer chez un artiste réputé. Ils l'ont donc placé chez un graveur. Néanmoins, pas des moindres, puisque Bazir était un graveur réputé. Il travaillait notamment pour la Royal Society. Il travaillait également pour la Société des Antiquaires. C'est un graveur qui a beaucoup travaillé sur les œuvres du passé. Et donc, il a envoyé Blake à l'abbaye de Westminster pour croquer toutes les sculptures gothiques de l'abbaye. L'abbaye de Westminster, c'est tout un bestiaire aussi fantastique. Et ça, c'est une première confrontation à l'art et une première confrontation à la spiritualité qui vont beaucoup marquer l'imaginaire de Blake. En 1778, il entre à la Royal Academy. Je l'ai dit tout à l'heure, à la tête de cette Royal Academy, il y a Joshua Reynolds. Et explosion des personnalités, conflit important entre les deux artistes. On a retrouvé des livres annotés par Blake qui critiquent, voire qui insultent ce saligo de Joshua Reynolds. Donc Blake ne pouvait pas le voir en peinture. Donc Blake va être... Saligo, c'est de moi, bien sûr. Blake va être influencé, tout comme Fuseli, par Shakespeare. Je vous ai montré tout à l'heure Titania et Wotan de Fuseli. Bah, là, voici une ronde avec Oberon, Titania et Puck. C'est une aquarelle, hein, donc c'est pour ça qu'on a ces teintes très diluées, très fragiles. C'est l'une des dernières scènes du Songe d'une nuit d'été. Et on a cette légèreté des corps, ce côté vaporeux, ce côté évanescent, qui est renforcée par l'usage de l'aquarelle. C'est une œuvre un peu atypique, je vous l'ai montrée pour ouvrir le cours, parce qu'elle est pleine de beauté et pleine d'optimisme. Après, on va voir que les corps gagnent en pesanteur. Blake donc est un personnage qui se présente comme quelqu'un d'insolite, nourri de vision, notamment avec son frère défunt. Alors bon, c'était une famille nombreuse, il était très proche de ce frère-là qui meurt d'une tuberculose, donc fin particulièrement atroce, hein, la tuberculose au 19e siècle, c'était quelque chose d'assez gore. Et Blake jusqu'au bout l'a veillé, il était très très proche de lui, et après sa mort, Blake va rentrer dans une espèce de phase mystique. Et il dira même qu'il est en relation, en lien, par-delà la mort, avec ce frère disparu. Et Blake expliquait que c'est ce frère défunt qui lui aurait révélé un nouveau procédé d'impression qui permettait d'imprimer notamment simultanément le texte et l'image. Ce qui n'était pas du tout acquis à l'époque. La gravure, c'était vraiment un procédé extrêmement compliqué, à plusieurs mains. Et Blake va, recentrer le procédé. Ça va être lui l'orchestrateur de la gravure de A à Z, et il va développer une technique tout à fait inédite. Petit quart d'heure technique. À cette époque, la technique généralement utilisée, c'est l'eau forte. L'eau forte, c'est la gravure en creux, c'est-à-dire que c'est une méthode de gravure par corrosion. Petit tas, on se croirait à Castorama. Petit tas, on étale sur la surface du métal un enduit, et ensuite on va inciser cet enduit aux endroits qui sont dévolus au dessin, donc la plaque elle est gravée. Et ensuite, on recouvrait d'acide. Et en fait, l'acide allait mordre le vernis. Et après, tout était, toutes les parties dessinées étaient mises à nu. Et on était bon pour l'impression. Blake, il va inverser cette méthode. En fait, il va tremper directement son instrument de gravure dans le vernis. Et il va écrire et dessiner à même la plaque. Et par la suite, après, on a le procédé habituel avec l'acide et puis avec l'ancrage. Et donc, l'impression proprement dite. Donc c'était aussi un technicien assez important, et donc cette technique lui aurait été soufflée par ce frère défunt. Alors, un bon exemple de cette technique, le mariage du ciel et de l'enfer, c'est un long poème, le mariage du ciel et de l'enfer. Là, l'argument, c'est le premier texte en fait qui ouvre le poème, dans lequel Blake explique ces nouvelles conceptions de l'univers qui ont été en partie inspirées par Swedenborg, ce philosophe que j'évoquais tout à l'heure. Je vous lis cet extrait qui est un bon exemple du monde foisonnant imaginé par Blake. C'est des vers très ardents, des vers très violents, il y a une ponctuation très très particulière. Et Blake, dans ce premier argument, évoque Rintra, qui est le fils d'un prophète, le prophète Los. Et Rintra incarne la colère dans toute sa splendeur. Gronde Rintra, brandit ses flammes dans l'air pesant. Nuages avides plissent leur front sur l'océan. Jadis humble, au péril des sentiers, l'homme juste menait son chemin selon la vallée de la mort. Fleurit la rose où croient ses épines. Aux langues désolées, chante l'abeille. Alors fut planté le sentier périlleux, rivière et source sur chaque falaise, chaque tombe. On épand de l'argile rouge sur les ossements blanchis. Alors le scélérat délaisse les sentiers faciles, s'aventure au chemin périlleux d'où il chasse l'homme juste vers les climats désertiques. Aujourd'hui l'insigneux serpent glisse en ondoyante humilité. L'homme juste éclate de rage dans le désert où les lions rôdent. Gronde Rintra, brandit ses flammes dans l'air pesant, nuages avides plissent leur front sur l'océan. Puisqu'un nouveau ciel a commencé il y a 33 ans, l'enfer éternel a repris vigueur. Voyez, l'ange nouvellement assis au tombeau est Swedenborg. Ses écrits, les linges repliés. Voici le règne d'Édom et le retour d'Adam au paradis. Reportez-vous à Isaïe, chapitres 34 et 35. Il n'y a pas de progression sans contraire. Attraction et répulsion, raison et énergie, amour et haine sont nécessaires à l'existence humaine. De ces contraires naissent ce que les religions appellent le bien et le mal. Le bien est le passif qui obéit à la raison, le mal est l'actif qui jaillit de l'énergie. Le bien est le ciel, le mal l'enfer. Autre œuvre de... Alors, on va le voir, hein, il y a vraiment une avalanche de mots qui sont... c'est la cacophonie, c'est le chaos, Blake. Et dans ses dessins, pas forcément ici, Mais dans ses dessins, comme dans ses textes, il y a vraiment un côté très, très chaotique dans le vomissement des mots, même si le vomissement, c'est pas un terme que j'aime parce que c'est très négatif, mais c'est ça, il y a vraiment une cascade, une cataracte de mots. Autre œuvre de Blake, les visions des filles d'Albion. Alors ça, c'est un texte qui parle à la fois de féminisme et d'esclavage. Il y avait une allusion très claire aux femmes de son époque qui, selon Blake, étaient entravées par les conventions sociales. C'était un féministe avant l'heure, Blake. Hein. Il avait vraiment des visions très très modernes pour l'époque. Les visions des filles d'Albion, c'est l'histoire d'un personnage féminin, Othon, qui est violé par un homme, Bromion, et qui va être détaché de son bien-aimé, Théotormon. Othon, c'est la fille de Los, que j'évoquais tout à l'heure. Donc Los, c'est vraiment un personnage un peu prophétique. C'est un personnage qui irrigue tous les poèmes de Blake. Et là, l'œuvre que je vous montre, c'est le frontispice donc, de ce poème. On a une œuvre très très inquiétante ici, avec ce soleil qui émerge d'une épaisse nappe de nuages, qui évoque un œil, et qui pourrait justement matérialiser la présence de ces filles d'Albion. Parce qu'en fait, le poème est intitulé « Vision des filles d'Albion », mais en fait, elles apparaissent de façon très, très succincte, très temporaire. Et donc, dans cette gravure, on voit Othon agenouillé, déchu, asservi, Théotormon à la tête camouflée dans les bras, dans la partie droite, donc il ne fait pas de figure. Il est à la fois massif et en même temps minuscule. Il est réduit à une position qui évoque la peur, qui évoque la lâcheté. Il est vraiment pitoyable. Et c'est une silhouette dérisoire par rapport au corps musculeux et à la tête hallucinée de Bromion, qui est complètement englué dans sa folie et qui est englué par les chaînes, hein, puisqu'il est, il est fait prisonnier. Les Chants d'innocence. Les Chants d'innocence, c'est un poème qui est consacré, c'est un poème qui est consacré à l'homme avant la chute. Et donc on a cette fusion, hein, comme dans les chants d'expérience et d'innocence. Comme dans le mariage du ciel et de l'enfer, on a cette fusion entre le texte et l'image. Et ça, c'était vraiment un procédé complètement inédit pour l'époque. Et il y a ce côté, dans les œuvres de Blake, on a l'impression que tout est corrodé, aussi bien au niveau de l'écriture qu'au niveau de l'image. C'est pas statique. On a vraiment l'impression que tout flotte, que tout vibre. Et c'était à cause de ce procédé avec l'acide, en fait, qu'il avait mis au point. Elohim créant Adam. Donc une scène tirée de l'Ancien Testament, une scène tirée de la Genèse. On a une opposition de ton chaud et de ton froid, qui donne donc à la scène une allure inquiétante, comme si la Genèse était un moment fatidique. Et en effet, pour Blake, c'est un moment fatidique. C'est un moment fatidique parce que la Genèse, c'est en quelque sorte, c'est la création de l'homme et c'est la création d'un long chemin vers la déchéance. Pour Blake, il y a une notion très importante, la notion d'unicité, qui est une notion bienheureuse. Et à partir du moment où Dieu crée l'homme, eh bien, il y a cette perte d'unicité, il y a une désunion de la matière. Et c'est une désunion qui est vue de façon très très négative, de façon très très néfaste. Cette impression d'inquiétude ici, elle est renforcée par la stature imposante, massive d'Elohim, donc Dieu, et le corps entravé d'Adam. Elohim ici, c'est un démiurge gigantesque, une forme éprouvante, une force éprouvante qui plane comme une menace, qui suggère l'impeccable. Aucun échappatoire n'est possible ici, et aucun échappatoire n'est possible quand on voit la figure d'Adam, figure suppliciée. On a vraiment une silhouette pitoyable, le corps est torturé, le corps est enchaîné. Le message ici, c'est que la mise au monde est éprouvante, au sens littéral du terme, c'est une épreuve. Et voilà, pour Blake, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est vraiment un faux Dieu, et la chute de l'homme prend place dès le moment fatidique de la création. Pour Blake, je schématise à peine, le mythe de la création, c'est le mythe de la destruction, puisque la création va abolir cette unicité originelle, va abolir l'intégrité de l'homme qui préexistait. Autre, autre allusion à l'Ancien Testament et c'est cette œuvre montrant Satan planant au-dessus d'Ève. C'est l'horizontalité qui frappe ici, une horizontalité comme une chape fatidique. Aucun échappatoire n'est possible, là encore. Hein, tout à l'heure, on avait la figure de Dieu qui planait sur Adam. Bah là, on a la figure du diable qui plane sur le corps inerte d'Ève. Un corps qui est cloisonné, là encore, cloisonné par le serpent. Et on a la pomme au centre. Elle n'est pas mise au centre par hasard. Elle attire notre regard et elle vient évoquer justement la faute d'Ève, hein, le péché originel et l'œuvre d'Ève. Et par sa faute, Ève va compromettre le destin des hommes. Et cette figure immense de Satan, avec les bras et les ailes déployés, planant majestueusement, parce qu'il est d'une beauté magnifique, vient rappeler cette faute première. Pas très gai, Blake, hein. Là encore, on a une œuvre qui vient nous rappeler la fin de l'homme, hein, la finitude, la maison de la mort. C'est une œuvre qui a été inspirée par Milton, donc l'auteur du Paradis perdu. On a ces teintes grises qui donnent à l'atmosphère une allure spectrale, une allure inquiétante. Et on a ici cette figure barbue qui est en fait une figure fantomatique. Les yeux sont clos, dirait-on. Le visage est camouflé par cette barbe immense, par ses cheveux qui volent au vent. On a vraiment l'impression d'un ectoplasme, quoi, d'une apparition fantomatique. Et elle est d'autant plus terrifiante, elle est d'autant plus déconcertante qu'elle vient surplomber des corps morts. Et en fait, c'est la vision qu'a Adam de la fin de l'humanité. Ce qui s'abattra sur les morts, c'est la fin, c'est la mort. Donc la création, là encore, est vue comme quelque chose d'extrêmement négatif. Nabucodonosor. Nabucodonosor, figure effroyable, là encore, englué dans la matière. Donc il y a une animalité, une folie qui met mal à l'aise. Cette animalité, elle est visible dans les yeux de l'humanité, dans cette bouche béante. On est face à un homme réduit à rien, réduit à la sauvagerie. Cet homme ne s'appartient plus. Il y a la barbe immense, la chevelure immense. On est vraiment dans l'image de la brute épaisse. Et on a vraiment l'impression que tout le traverse. Il y a vraiment un désespoir latent dans cette œuvre qui frappe le spectateur. Et qui montre bien la vision qu'avait Blake de l'homme. Pour Blake, l'esprit de l'homme est enfermé, l'esprit de l'homme est en proie à la souffrance. L'important, c'est la liberté, c'est la voie vers l'infini, et tout ce qui contrecarre cet élan vital va être critiqué. Et là, Nabucodonosor, il est entravé, il est enfermé, il est emprisonné. La liberté ici, elle est inexistante. Et pourquoi la liberté est inexistante? À cause de gens comme lui, comme Newton. Alors Isaac Newton était un personnage que Blake abhorrait. Pourquoi? Parce que Newton, c'est la figure du scientifique, c'est un physicien, un astronome, un mathématicien britannique, Newton, qui est mort dans le premier tiers du XVIIIe siècle. Et Blake aborde Newton parce que pour Blake, Newton régule. Newton fixe des bornes. Et ces bornes, bah là encore, elles nous entravent, elles nous emprisonnent. Donc Blake qui pourfend ici toute la philosophie matérialiste incarnée par des personnages comme Newton. Et Blake, je l'ai dit tout à l'heure, il refuse toute limitation. Pour lui, la chose la plus importante, la plus précieuse, c'est la liberté. Et c'est cette liberté qui pourrait inverser cette mécanique infernale qui nous entraîne et qui nous enchaîne et qui nous emprisonne. Au-delà ici, la figure de Newton qui est magnifique, hein, il est interdit, il est en train de quantifier, de réguler la matière, elle est quand même très... cette image-là, elle est très inquiétante parce que le paysage, cet immense rocher et ce ciel bleu nuit, bleu noir, viennent quand même instiller un peu l'inquiétude. Le livre d'Urizen. Urizen, c'est la figure suprême du tyran. j'ai dit tout à l'heure que Blake jugeait la création du monde néfaste. Là, il évoque la Genèse, donc il évoque la création du monde, et il l'évoque comme l'histoire d'une chute. Au commencement, il y avait cette unité, et cette unité va être complètement explosée par la création. Pour Blake, vraiment, hein, la fragmentation, c'est la damnation. Et donc, à ce propos, je voulais lire un extrait du Risen. Faut que je le trouve parce que j'ai les post-it absolument partout. Alors, c'est le chapitre 1 du texte. Voyez cette horreur sombre surgir dans l'éternité. Inconnue, non prolifique, refermée sur elle-même, rejetant tout. Quel démon a pu former cet abominable vide qui bée à faire frissonner l'âme? Certains disent Urizen. Mais anonyme et abstrait, couvent des secrets, l'obscur pouvoir se cache. Il a divisé le temps par le temps et mesuré l'espace par l'espace en son octuple nuit. Invisible, anonyme. Les changements sont apparus dans ces montagnes désolées, crevassées de fureur par l'irruption des vents noirs. Car il s'est affronté en rude combat, en conflit secret, avec des formes nées de sa sauvagerie lointaine. Bêtes, oiseaux, poissons, serpents et éléments, combustion, cyclones, vapeurs et nuées. Silencieusement actif en ses révolutions, invisible au tournant de ses passions. Ombre auto-contemplatrice active en ses horreurs secrètes, confinée à d'énormes travaux. Les éternels ont vu ces immenses forêts. Des âges durant, il est resté tapis, fermé, indéchiffrable en ses noirs projets, au fond des océans. Tous évite son abominablement pétrifiant chaos. En silence, Urizen le Sombre préparait ses horreurs froides, ses dizaines de milliers de tonnerres déployés en armée nocturne couvrant l'étendue du monde craint, et le roulement de roues, tel d'océans en crue, grondait aux nuages, aux magasins de neige de ses collines, dans ses montagnes de grêle et de glace, retentissantes voix de terreur, pareilles aux orages en automne, quand les nuées déflagrent sur les moissons. Donc c'est vraiment un monde bruyant, c'est des vers ardents. Alors la traduction française n'est pas forcément, très éloquente, mais c'est vraiment des vers ardents. Évidemment, je ne vous les lis pas en anglais parce que sinon ce serait catastrophique, mais je ne veux pas faire de la pub, mais le texte là, c'est l'édition bilingue, faut les lire en anglais pour la beauté des mots, c'est vraiment, c'est magistral. Donc là, je vous ai lu le texte, mais je vous ai également présenté des images qui illustrent donc ce premier chapitre. Donc il y a à gauche la figure du démiurge, une figure menaçante avec ce gigantesque ouvrage qu'il tient entre ses mains. Et sur la page de droite, eh bien on la sent visuellement, cette fatalité inéluctable, inexorable qui était évoquée dans les vers, à travers cette verticalité oppressante, la verticalité des corps, la verticalité des gerbes et la verticalité des lianes, des serpents qui sont montés comme des ressorts. Il y a vraiment quelque chose de très dynamique dans cette vision des hommes qui sont ici enchaînés, qui sont damnés. On n'est pas du tout dans quelque chose de positif, on n'est pas du tout dans quelque chose de bénéfique pour l'humanité. Autre figure qui apparaît dans le livre du Risen, c'est l'os. Donc l'os, j'en ai parlé tout à l'heure, dans le texte là, l'os c'est le créateur. Le créateur au sens de l'artisan, c'est lui qui va donner forme au chaos inventé par Urizen. Et de façon très très rapide, je vais vous lire le portrait de l'os. C'est le texte en fait, qui est au-dessus de l'image. Saisi d'une stupeur d'épouvante, l'os hurle, gémit, grince des dents, gémit, attend que la plaie de l'arrachement guérisse. Elle ne guérit pas. Informe et glaciale, lui, argile autant que chair, couturé de monstrueuses métamorphoses, continue sa vie sans rêve. À la fin, l'os réveille ses feux, pris d'effroi devant la forme, l'incommensurable mort. Donc voilà, une vision très négative de la création. Alors Blake va au XVIIIe siècle, en cette fin du XVIIIe siècle, se passionner pour ce qui se passe hors de l'Angleterre et notamment pour ce qui se passe en France. Il va être un spectateur assidu de la Révolution française notamment, et puis il va vite s'en détacher. La fin des années 1790, pour Blake, c'est vraiment le temps des désillusions. La Révolution française qu'il appelait de ses voeux, qu'il trouvait extraordinaire, qu'il trouvait formidable, est en train de se durcir, c'est la période de la terreur, et toute l'adhésion de Blake à ce formidable mouvement qui a mis fin à l'ancien régime, tout cet enthousiasme va s'effriter. Et ça correspond à une période où il y a pas mal de déconvenues, il y a pas mal de désillusions. C'est une époque où il vit pauvrement et il y a une noirceur dans sa vie qui va se retrouver dans ses œuvres. Du coup, la noirceur, elle est là aussi, elle est assez, assez présente. Alors, de façon sous-jacente, Satan observant les caresses, les gestes tendres d'Adam et Ève. C'est une aquarelle qui illustre le paradis perdu de Newton. On a une vue très idyllique d'Adam et Ève qui s'embrassent. On a ces végétaux qui nimbent le couple, on dirait une auréole. Donc, il y a quelque chose de très beau, de très léger. Et pourtant, la menace plane déjà au-dessus de cette matrice végétale. On a Satan entouré par le serpent qui les observe. Et on a le corps très souple, très délié de Satan. On a les ailes tournoyantes. On a vraiment une impression de mobilité qui est assez inquiétante. Voilà, la menace, elle est présente, elle est latente. Et elle est réalisée dans la tentation et dans la chute d'Ève, qui donc illustre là aussi le paradis perdu de Milton. On a le serpent qui apporte la pomme à la bouche d'Ève, tout entière dévouée à la tentation. Elle est penchée vers le serpent, le corps est ployé vers le fruit défendu. Et Adam, lui, est isolé. Il est dos à nous, le corps tendu au contraire vers le ciel, vers le haut. Tout est fait ici pour le singulariser et pour montrer la faute de cette vilaine Ève qui nous enchaîne à notre condition d'homme. Amérique, une prophétie. Alors ça, c'est un poème qui est composé au début des années 1790, qui va être édité à plusieurs reprises. Là, c'est une édition de 1821. Et dans ce poème, en fait, Blake oppose les rebelles et le prince d'Albion. Le prince d'Albion incarnant l'Angleterre. C'est un poème qui s'ancre un peu dans l'histoire contemporaine. Hein. Ça évoque la révolution des 13 colonies américaines. Sous la conduite de George Washington et qui va déboucher à la guerre d'indépendance et qui va déboucher sur la proclamation des États-Unis d'Amérique en 1776. Blake a été épaté hein, par cette révolution américaine. Pour Blake, au-delà, toute l'histoire, ce n'est qu'une longue suite de conflits pour obtenir une liberté et pour combattre la tyrannie. Et dans Amérique, une prophétie, Blake va évoquer un personnage, Orc. Orc, c'est l'esprit de la révolte, et Orc va briser ses chaînes pour combattre l'oppresseur. Dans ce texte, alors c'est assez rigolo, le mythe et la réalité se confondent. C'est-à-dire que Blake invente des personnages comme Orc, mais convoque également des personnages réels comme George Washington. Donc le mythe et la réalité se confondent. Et là, c'est une image assez étonnante. Et qu'il faut confronter avec le texte, c'est le dernier extrait que je vous lirai, et le texte fourmille d'images qui évoque le mouvement, qui évoque la puissance, qui évoque le chaos. Solennel, les vagues entre les deux nations nocturnes se soulèvent, gonflent, crachent de leurs entrailles nuées rouges et feux de colère. Malade Albion, s'évanouit l'Amérique, se déchaîne le zénith, comme sang humain courant aux veines autour de l'orbe du ciel. Rouges les nuages montent de l'Atlantique, rondes énormes de sang, et rouge avec eux monte une merveille étonnante sur l'Atlantique. Intense et nue, flamme humaine, rougeur féroce comme coin de fer chauffé à blanc dans les forges, ses membres sont flammes, s'y accrochent mille vapeurs terribles, barrières noires et ceintures de tours, chaleur sans lumière se diffuse dans l'obscurité ambiante. Je voulais terminer ce panorama sur Blake par Job, le livre de Job, c'est un livre qui est dans l'Ancien Testament. Le livre de Job, c'est la foi mise à rude épreuve. Hein. C'est, l'histoire de Job, c'est une histoire tragique. Il lui arrive des tas de malheurs et la foi vacille, mais malgré tout, elle reste toujours présente, malgré les drames. C'est un très très beau récit, le livre de Job, sur le sens de la foi et sur le rapport de l'homme à Dieu. Et Blake va créer un certain nombre d'illustrations pour rendre compte de ce texte magnifique. Et on a ici le désespoir de Job, avec au centre la figure de Job, les bras tendus, dans un élan de désespoir, qui implore Dieu. À ses côtés, on voit des silhouettes voûtées, des silhouettes massives, appesanties par le chagrin. Il y a vraiment un contraste entre ces figures monolithiques ancrées dans le sol et cette silhouette érigée de Job, cette silhouette ascendante qui culmine vers les cieux pour implorer Dieu. Autre illustration, les songes de Job. Job, on le voit malmené par les démons qui l'agrippent. Et au-dessus, là encore, hein, toujours cet artifice abondamment employé par Blake, cette silhouette menaçante du diable qui est cerclée par le serpent, qui désigne les tables de la loi et qui vient mettre à rude épreuve cette foi de Job qui, malgré tout, lui reste chevillée au corps. Et enfin, la chute de Satan. La chute de Satan avec une composition très symétrique, rigoureusement symétrique, hein, avec cette chute de Satan au centre, hein, qui est dans les nuées ardentes, les nuées rougeoyantes, et qui est symétriquement cantonnée par les deux anges, de part et d'autre, et dans la partie inférieure, par des personnages, Job et sa famille. Et Job ici a un visage beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Non, Dieu ne l'a pas oublié, Dieu est présent dans la partie supérieure, serein, impavide, tout est en règle. Blake meurt en 1827, laissant une œuvre prolifique qui va influencer un grand nombre d'artistes au 19e mais au 20e siècle également, et un certain nombre d'écrivains. En France, André Gide, par exemple, a été très, très marqué par la leçon de Blake, Georges Bataille également, que j'évoquais tout à l'heure. Et je voulais conclure par ces quelques mots. Bon, on est dans l'histoire de l'art, hein, on a été dans la littérature, mais on est avant tout dans l'histoire de l'art, mais on est aussi dans l'histoire d'un périple. Parce qu'il s'agit bien d'un cheminement dans l'œuvre, dans les visions de Fuseli et Blake, un cheminement souvent éprouvant. À travers toutes ces visions qui nous déstabilisent, qui nous déconcertent, qui nous fragilisent aussi, parce qu'elles donnent à voir une humanité vacillante, en proie au doute, en proie à la douleur d'être, à la douleur d'exister, une humanité maudite, on pourrait se poser la question avec Blake, en tout cas une humanité vulnérable, parce qu'humaine, trop humaine, et c'est bien ça le drame pour ces artistes, et notamment pour Blake, cette humanité fatidique et fatale. Voilà, je vous remercie.